ce matin, nous allons considérer deux passages différents. Nous allons lire d'abord 1 Corinthiens 15, du verset 1 au verset 28. 1 Corinthiens 15. Et après, nous allons voir Luc chapitre 24. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, a donné une explication théologique de la résurrection du Christ, et Luc nous donne le récit de cela. Et je vais faire un effort pour voir si je peux laisser certains versets pour aller, mais nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 28, et ensuite dans Luc chapitre 24, verset 1 au verset 12. Je voudrais vous rappeler encore que ce n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Donc faites attention à cela. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Maintenant, lisons Luc chapitre 24, verset 1 au verset 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Prions. Notre Père céleste, nous venons encore devant ta parole en se rendant compte que sans ton aide, nous allons manquer de comprendre ce que le passage dit, mais nous allons rater la puissance de la parole de Dieu. Nous prions que tu puisses nous donner de comprendre la parole dans nos pensées, dans notre âme. Permets à ce que nous puissions comprendre. Change-nous, transforme-nous à travers ces paroles que nous prions que tu nous rendes plus à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le ministère de Christ sur la terre est vu en deux niveaux, son humiliation et son élévation. Dans son humiliation, il y a des choses qu'on peut voir, comme il est né d'une femme, il a reçu, il est né dans le corps, dans la chair humaine. Ça faisait partie de l'humiliation du Seigneur Jésus. Mais quand nous parlons de la résurrection de Christ, alors il a été élevé, son élévation. Et donc nous allons prendre quelques moments. Comme vous le savez, je vais prêcher, je vais terminer. Mais nous allons prendre quelques moments pour regarder l'élévation de Christ dans sa plénitude. Alors nous allons nous focaliser sur la résurrection de Christ comme nous évoluons à la fin du sermon. Le catéchisme réduit nous amène à nos textes et à notre sujet en décomposant l'exaltation de Christ en quatre parties de cette exaltation. D'abord, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour. Vous voyez, numéro 2, son ascension au ciel. Au jour de l'ascension, il est parti rester au Père, avec le Père. Numéro 3, son assise à la droite de Dieu le Père pour régner dans l'autorité. Numéro 4, et il vient pour juger le monde au dernier jour. Donc notre attention va être sur ces choses, mais surtout sur la résurrection du Seigneur Jésus. Nous allons voir les quatre choses là pour voir le contexte et également le contenu de ce que nous devons comprendre, c'est-à-dire la résurrection de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il vienne sur la terre, a manifesté, on parle de son incarnation, et c'est Jésus qui a commencé, il est la deuxième personnalité de la Trinité qui a toujours existé. Il existait avant de voir l'incarnation dans la chair humaine. Il est dans la Trinité, le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et quand nous parlons de l'ascension de notre Sauveur, nous comprenons qu'une fois qu'il a terminé son œuvre sur la terre, il est allé au ciel. Luc 24, verset 50 au verset 51, il est conduit, Luc 24, verset 50 et 51, il est conduit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé du ciel. Jean 17, verset 5, et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc Jésus disait que sa gloire, dans sa chair, la gloire n'était pas totalement élevée, mais il dit, Père, rappelle-toi comment j'étais avant de venir et glorifie-moi de cette manière. Alors Christ a fait son ascension vers le ciel et il a été glorifié comme il était. afin que il puisse être vu et prié comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et dans son existence, quand il a fait devant le Père, il n'y aura pas de question pour se demander est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui qui est Dieu, est-ce que c'est lui qui est homme. Il y aura toutes ces choses, vous ne pouvez pas faire des erreurs par rapport à cela. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa gloire, dans son état de gloire, il est Dieu et c'est lui qui a pris la chair humaine. Il a fait des dons à des hommes et dans cet aspect de son exhortation, il est Éphésiens nous dit, Éphésiens 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a, quand les gens allaient faire des combats, ils revenaient avec le butin et ils donnaient telle chose à telle chose parce qu'ils ont travaillé et on les considérait comme des héros. Et alors, il a donné des dons, il a fait des dons aux hommes pour que l'Église, il a donné des dons à l'Église pour que l'Église puisse accomplir ce à quoi il les a appelés. Il est notre prémisse pour nous montrer ce que nous devons faire, le chemin que nous devons suivre. Il est allé au ciel pour que nous puissions aussi arriver là-bas un jour. Jean chapitre 14, verset 1 au verset 3, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi est-ce que votre cœur va se troubler? Parce que vous allez comprendre que le monde dans lequel nous sommes, le monde est déchu, et le monde dans lequel nous sommes, il y a la persécution, il y a les difficultés, il y a les défis. Et Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. L'ascension de Christ était pour lui son entrée dans la félicité de son Père. C'est l'image que nous allons embrasser un jour lorsque nous nous retrouverons dans la présence de Dieu dans notre résurrection. Il nous dit dans ce passage, 1 Corinthiens, dans le chapitre 15, verset 20, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Oui, Christ est ressuscité des morts, il est le prémice de ceux qui sont morts. Car, verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Christ n'est pas passif ou inactif, mais il règne, il est actif, il est le Seigneur des Seigneurs. Et alors, nous voyons Christ comme celui qui est assis sur le trône et qui continue par dominer. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est à travers son Église, à travers l'œuvre de son peuple, comme l'Évangile est enseigné, comme l'œuvre de Dieu continue. Il est le changement, il amène les disciples à être actifs pour les amener au Seigneur Jésus-Christ. Alors il règne à travers sa volonté souveraine, il se réjouit en cela, l'Église est établie et gardée, et ça c'est glorieux, c'est un rappel pour nous. En cela, les attitudes et les dispositions, la culture dans laquelle nous sommes, c'est d'être, il y a des gens qui veulent être plus comme les autres dans d'autres parties du monde, où il y a des gens qui sont hostiles vis-à-vis du Seigneur Jésus et du Sauveur. Mais Dieu nous rappelle, comme il est assis à côté de son Fils, il veut qu'il règne, qu'il conquiert, qu'il domine, et que l'Église soit établie. Il n'y a pas de force sur la terre, il n'y a pas de pouvoir sur la terre qui peut arrêter Dieu de faire ce qu'il a planifié faire avec son Église et avec son peuple. Nous ne devons pas laisser la souffrance nous dominer. Il dit qu'il va avoir son règne, il va régner. Et ses règles et son règne va être déclaré et va être construit dans toute l'éternité. Alors, numéro 4, et donc la troisième chose dont on a parlé, parce que ici, nous savons, nous ne devons pas avoir la confusion. Quatrièmement, il vient pour juger le monde. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour nous, mais c'est un sujet où des gens prennent dans le Moyen-Orient. Il y a un livre qui a été écrit que Jésus revient demain, peut-être dans deux jours. On nous rappelle dans plusieurs parties que nous ne devons pas essayer de voir, de savoir quand Christ arrive, c'est son travail. Lui, il vient dans son humanité, quand il va retourner et quand il va parler à ses disciples directement et qu'il va dire ces choses ne vous concernent pas, ça ne vous concerne pas, mais il va revenir. Il reviendra pour accomplir le jugement de l'humanité et le jugement du monde. Jean chapitre 5, le verset 22. La Bible dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Matthieu chapitre 25, Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, verset 31. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tout avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'Ancien Testament parce qu'il y a beaucoup de meurtres. Mais il y a une bonne mesure de cela là-bas. Mais ils veulent être dans le Nouveau Testament où on parle de l'amour. Mais le Nouveau Testament concerne l'amour. C'est Dieu qui a aimé tellement le monde, qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Mais le Nouveau Testament est également un récit du jugement que Christ va faire, et ceux qui sont en Jésus-Christ vont avoir le salut. Ils doivent être appelés à rentrer dans la joie, et ceux qui n'ont pas la foi en Christ, ils vont connaître le jugement du Seigneur Jésus. Ils seront rejetés dans le tourment éternel. Et quand nous pensons à la résurrection de Christ, nous devons comprendre que cela arrive comme en faisant partie de l'image élargie, et cela fait partie du règne de Christ et du jugement que le monde connaîtra. Cela concerne le règne de Jésus, et ça concerne l'œuvre continue du Seigneur Jésus-Christ, où il est allé, il est à la droite du Père, et il est le roi des rois qui juge la terre en ce jour quand il va venir. Alors, qu'en est-il de la résurrection de Christ? Qu'est-ce que nous gagnons de la résurrection de Christ? Nous avons déjà connu l'histoire quand nous étions encore des enfants, nous apprenons des choses. Et il y a beaucoup de choses qui étaient dites de la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous apprenons de là? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites de la résurrection. C'est une scène glorieuse. Mais pourquoi est-ce que cela est glorieux? Ce n'est pas simplement parce que c'est une bonne histoire qu'on écoute et que quelqu'un, une bonne personne, il est là, la bonne personne, à dominer toutes choses autour de lui. Et il y a des gens qui font des films par rapport à cela. Mais dans cette occasion, comme nous voyons la résurrection de Jésus, nous comprenons que c'est plus que ça. C'est ce qui parle pour l'enfant de Dieu, pour que nous puissions avoir l'espérance qui est trouvée en Christ. Parce que ce que Christ a fait à travers sa résurrection, c'est qu'il a conquis tous les ennemis, il a dominé, il a vaincu la mort, il a défait la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 au verset 22, nous lisons cette déclaration simple. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Qu'est-ce qu'il dit là-bas concernant la nature de la venue de Christ? D'abord, il dit quelqu'un est venu avant lui. Qui était cette personne? C'était Adam. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam est venu et il a subi une épreuve, mais il a chuté, il a péché, il a violé le commandement de Dieu, il a mangé le fruit qu'il ne devait pas manger. Et il a méprisé le commandement de Dieu. Et alors, non seulement lui-même, il a changé tout ce qui devait venir. Tout ce qui devait venir de lui, tous ses enfants sont devenus des pécheurs par nature à travers leur naissance. Et ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens, c'est que Adam est venu, il a échoué à son test, il mérite la condamnation et il a été chassé du jardin. Et alors, ces choses sont connues. Il dit quelle est l'espérance que nous avons là-bas. Si nous sommes nés des pécheurs et que nous sommes incapables de faire quelque chose pour accomplir notre propre salut, quelle espérance y a-t-il pour nous? Et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons dans les œuvres de l'Apocalypse. L'apôtre dit aux Corinthiens que cet homme, Adam, est venu et il a changé toutes choses. Mais une autre personne est venue, Jésus, et lui, il a accompli tout ce qui est nécessaire pour notre salut. La colère de Dieu contre nos péchés est répondue, est réglée par le sacrifice de Jésus en versant son sang, et la dette a été payée. Et Dieu a su que nous sommes incapables de faire des choses que nous sommes appelés à faire. Il y a deux choses. Quand nous parlons de la doctrine de la justification, où nous avons été à travers la foi, nous avons été justifiés devant Dieu. Christ a payé pour la mort, pour nos péchés. Il a payé à travers sa mort. Et alors, il a fait ce qui était nécessaire. Ce n'était pas simplement que Adam a méprisé, a outrepassé la loi, mais il a échoué, il a manqué de faire ce qu'il fait, il devait faire. Mais nous aussi, parfois, nous faisons ce qui est bon et parfois, nous faisons ce qui est mauvais. Mais chaque fois, nous sommes des pécheurs et nous manquons de faire ces bonnes choses qui plaisent au Seigneur. Mais une chose que nous pouvons voir, il y a des gens qui pensent que je peux, à travers mes bonnes œuvres, aller au ciel, c'est que nous ne pouvons pas, personne d'entre nous ne peut être en mesure de faire ce qui est exigé. Personne n'est en mesure de faire quelque chose d'aussi bon. Nous sommes tous à un moment de notre vie, nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas à travers l'amitié ou bien un voisin, une connaissance, quels que soient les efforts que nous faisons pour faire la bonne chose, vous ne pouvez pas rendre cette personne heureuse. Et la vérité, c'est que ça, c'est le problème que nous avons avec Dieu. Nous ne pouvons pas rendre Dieu heureux, content, parce que même nos meilleures actions, nos meilleures œuvres constituent des défauts devant lui. Et c'est le péché. Nous ne pouvons pas amener quelque chose devant Dieu pour satisfaire ce qu'il exige de nous pour notre salut. Mais Christ, lui, il est venu à notre nom. Il a apporté son obéissance. Il a apporté son obéissance à la loi. Il a apporté les exigences. Et c'est là qu'il est présenté devant Dieu. Ce sont les moyens par lesquels la loi a été réglée à travers notre obéissance. Parce que notre obéissance constitue l'obéissance de Jésus-Christ pour nous, à notre faveur. Quand nous parlons de cette doctrine spécifique, nous parlons de ce qu'on appelle la représentation fédérale. Vous savez, l'utilisation de fédéral parfois a une connotation négative. Fédéral, c'est une représentation de notre part. Quelqu'un qui est à, par exemple, à Washington, il nous représente. Christ a fait cela, il a fait ce qu'il a déclaré qu'il fera. Alors il agit à notre place et il est mort à notre place. Il a obéi à la loi de Dieu à notre place et il nous donne ce dont nous avons besoin par ceux qui... Et donc, comme nous voyons Jésus-Christ qui apporte la vie à travers la mort, Christ est le prémisse. Nous n'utilisons pas ce mot dans notre vocabulaire quotidien, mais quand on parle de prémisse, la prémisse, c'est qu'il y a quelque chose qui est le début, mais il y a d'autres qui vont venir. Quand les offrandes sont faites après la récolte, les premières récoltes, les premiers fruits, c'est que vous dites que Dieu, je te donne une portion de ce que tu as permis que cela puisse croître sur mon terrain. Je te donne cela en signe de démonstration que tout ce que j'ai récolté, je vais récolter, t'appartient. Donc Christ, à travers sa vie, a donné sa vie et il est le prémisse de ce qui devait venir. Il est le témoignage qu'il y aura encore beaucoup de choses qui vont arriver. Alors, il a ouvert la porte pour nous. Il nous a montré le chemin. En tant que chrétien, il est parti dans la gloire. Et donc, nous aussi, nous allons aller dans la gloire. Sa résurrection est une promesse pour nous. Sa résurrection est une image pour nous. Est un exemple pour nous. Sa corruption, la résurrection nous donne de l'espérance que la vie va venir. La vie arrive. Quand nous voyons la résurrection de Christ, nous voyons les promesses qui sont devant nous comme une grande proclamation, déclaration. Il nous rappelle la puissance de Dieu qui est montrée à travers sa résurrection. Jean chapitre 10, verset 17. Jean 10, verset 17, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a un certain nombre de choses que lorsque vous détournez votre pensée sur la doctrine de la résurrection, le récit historique de la résurrection de Christ, il y a des choses qui peuvent venir dans votre esprit, dans votre pensée. Les Écritures nous parlent un certain nombre de fois et parlent pour nous, c'est la parle de la, du pouvoir de la résurrection. S'il y a des activités sur la terre que Satan ne pouvait pas arrêter, si Satan pouvait arrêter quelque chose, ça serait la résurrection. S'il n'y a pas la résurrection, il n'y aura pas de la colère de Dieu qui sera apaisée. Alors la puissance dont on parle ici, c'est la puissance sur la mort. Romains chapitre 6 verset 9. Romains 6 verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le pouvoir de Christ était sur la mort. Il ne va pas être enterré encore. Il ne va pas être délaissé. Mais il est victorieux. La malédiction, la condamnation est dominée. Le pouvoir du péché est brisé. Et c'est la résurrection. Le pouvoir de la résurrection. En tant que chrétien, nous savons, est-ce que vous ne savez pas que plusieurs fois, en vous regardant avec les luttes que vous avez contre le péché, eux vous dites, quand est-ce que je vais dominer, je vais finir avec ceci. Il n'y a pas de l'espérance que je puisse avoir la domination sur le péché. Mais la réponse, c'est quand, c'est maintenant et dans l'éternité, tu seras toujours avec lui et complètement avec lui quand tu te mets devant le Seigneur Jésus-Christ le dernier jour. Ça, c'est le désir que tu veux chercher. Et comme je lutte avec mes propres péchés, avec mes propres tentations, mes propres fautes, quand je lutte avec ces choses et que je me pose la question, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire cela, je ne peux pas dominer, je ne peux pas, plus ou moins. Mais nous allons essayer avec notre tentation, nous allons continuer à utiliser fidèlement, par le moyen de la grâce, continuer par prêcher, lire la Bible, prier, adorer Dieu, participer à la Sainte Cène, et le baptême et des autres choses que le Seigneur, la Bible nous dit que c'est pas les moyens par lesquels nous avons reçu, et nous devons combattre le péché et grandir. Et si ce n'est pas fait, nous allons être faibles, et ce serait comme si c'est des jeux. Si vous allez penser que vous allez gérer le problème de péché et quelque chose arrive encore, vous allez dire, ah, je ne vais pas faire ceci encore et je lutte encore avec le péché. Notre lutte contre le péché continue. Quand nous allons continuer avec cette lutte constante, nous allons nous tenir devant Dieu et Dieu va nous rendre pur. Nous allons vaincre le péché parce que il n'y aura rien de corrompu qui va rentrer dans la présence de Dieu. Alors nous nous réjouissons en cela et nous voyons que c'est une bonne chose. Mais nous nous réjouissons parce que nous ne sommes pas laissés ici seuls pour continuer la lutte par nous-mêmes. Mais il faut comprendre. nous allons voir la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 9, verset, et chapitre 6, verset 9, quand il parle des armes de combat. Vous allez venir, on va étudier cela ce soir. Le pouvoir de la résurrection, c'est le pouvoir qui est manifesté sur la mort et sur le péché. Et là, il nous permet de lutter pour la sanctification, pour l'espérance. Paul nous écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 au verset 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et donc je crois que à travers ce passage, c'est clair, à travers ce passage et même l'histoire de l'Église, que c'est la tendance de toutes les générations de penser que Dieu, le Seigneur Jésus, viendra dans leur génération. Quand moi j'étais à l'université, c'était en 1988, il y a quelqu'un qui est venu avec un livre et qui a dit, voilà les raisons, le livre disait les raisons pour lesquelles Jésus viendra à cette année, mais ce n'est pas réalisé, ce n'est pas venu. L'année prochaine, l'année qui a suivi, il est venu avec un autre titre. Il a dit en 1989, 89 raisons pour lesquelles Jésus viendra en 1989. Je suis content parce qu'il n'a pas continué avec cette série. Mais quand nous parlons de la résurrection de Christ, c'est bon de penser en termes d'anticipation, d'attente, de recherche. Viens Seigneur, viens, viens, viens. Et dans ce combat horrible, pas avec mon âme, mais avec ce qui consume les hommes, qui se plaisent dans le vol, dans le meurtre, dans la haine, nous avons besoin de voir ces choses englouties. Nous avons besoin que tu viennes et que tu répandes ton esprit, ta puissance, ton pouvoir sur nous. La résurrection du Seigneur Jésus est un rappel merveilleux pour nous que Jésus-Christ, qui a ce pouvoir, peut faire son œuvre et il nous donne de l'espérance. Si nous sommes libérés et que nous dépendons de lui, il nous donne la ressource, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais si nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas la capacité, alors ça serait très triste. Mais pour terminer, après avoir parcouru toutes ces choses concernant la résurrection de Christ, son pouvoir, sa réalisation, sa provision, la provision qui nous donne du salut, la réalisation de l'œuvre de Christ et la satisfaction des exigences du Père, quand nous pensons en cela, vous voyez, nous ne sommes pas parfois satisfaits. Pour être honnête avec vous, est-ce que vous n'avez pas beaucoup de raisons pour lesquelles Christ n'est pas satisfait de vous? Moi, j'ai des difficultés, des défis. Pourquoi? Parce que nous sommes imparfaits. Il y a des gens qui jugent qu'ils sont imparfaits, mais Dieu n'est pas imparfait. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Alors, quand nous nous tenons devant lui, nous savons qu'il a de bonnes pensées pour nous. C'est comme... Voilà l'évidence. Il y a des gens qui mettent les évidences et qui disent que voilà telle évidence. Ils ont dit que on ne peut pas avoir beaucoup de raisons qui peuvent justifier notre dépravation. Et c'est la raison pour laquelle tous nos efforts ne peuvent rien faire pour satisfaire l'existence de Dieu. Alors Dieu est satisfait. Dieu est content avec nous parce que il est satisfait du sacrifice de Jésus-Christ à travers le sang qui a été versé. Et la gloire de la résurrection, nous devons voir que cela a un mandat. Ce n'est pas, il y a des choses intéressantes pour lesquelles il faut penser. Il faut faire ce que vous voulez faire. Nous avons nos propres opinions et nos opinions, pour nous, ce qui importe beaucoup pour nous doit être la même chose doit être pour. Ça ne va pas être ce qui importe pour les autres, pour chacun. Mais ce que nous voyons ici, la résurrection exige de nous que nous acceptons ce que Dieu a dit, les commandements de Dieu et ce qu'il nous demande à suivre. Jean chapitre 20, verset 27. Jean 20, verset 27. Dans sa discussion, dans ses échanges avec Thomas, vous connaissez ce que Thomas dit. Et déclare, Thomas dit, puis il lui dit, Thomas, il a dit, si je ne touche pas, je ne mets pas ma main dans ses plaies, je ne vais pas croire. Et Jésus s'est révélé à Thomas, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici l'évidence. Je suis ici, je suis ressuscité des morts et j'exige de vous que vous croyez. Ça, c'est l'évidence. La résurrection de Jésus, que le Père est satisfait, que Christ a accompli tout ce qui devait être accompli, et alors il exige de nous que nous croyons à l'Évangile. L'Évangile est le seul moyen par lequel Dieu sera satisfait. L'Évangile est le seul moyen par lequel le salut peut s'obtenir. Et le mandat de la résurrection de Christ, ce n'est pas d'avoir un jour férié à célébrer, mais c'est que nous avons la déclaration de cette parole, de cette parole. Nous avons la déclaration de la résurrection, que Dieu est satisfait par l'expiation de substitution que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Alors croyez en cet évangile. C'est l'évangile par lequel le sacrifice est fait et tous ceux qui croient en lui. C'est l'évangile où le Fils de l'homme se met debout et demande comme à notre substitut. Il a reçu notre punition et il a accompli l'obéissance de la loi que Dieu exige. C'est l'évangile où l'expiation a été faite. Rappelez-vous le passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, là où nous avions lu où Paul a dit, s'il n'y a pas de résurrection, alors tout ce que nous faisons est stupide. Et alors, pour faire ce qui est bon, mais s'il y a la résurrection, alors notre prédication n'est pas en vain. Notre prédication, notre déclaration, notre enseignement de Christ, que ce n'est pas en vain. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Il y a des gens qui vont penser à lui-même, ils vont dire que moi-même, j'ai la foi personnelle. Et on dit, qu'est-ce que cela voudra dire? Il faut comprendre. Qu'est-ce que cela voudra dire? La foi personnelle. Mais ils disent que j'ai la foi. Mais en quoi? Votre foi est en quoi? Votre foi doit reposer sur quelque chose. Cela peut être quelque chose de bon ou mauvais. La foi doit reposer sur quelque chose. La foi doit reposer sur quelque chose. Mais notre foi n'est pas vide, parce que Christ, ce que Christ a fait, son œuvre est nécessaire pour payer le prix. Notre mort, nous n'allons pas pouvoir faire ce que Dieu. Il y a des gens qui savent, dans 42 années que j'ai passé dans le ministère, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Déjà, vous vous tenez devant la congrégation et que vous êtes triste parce que vous aimez ces personnes, mais au même moment, c'est comme si je suis content que mon père, mon frère est parti au ciel finalement. Mais alors, il y a d'autres personnes pour qui nous faisons les funérailles quand vous vous tenez là-bas et vous êtes triste parce qu'il n'y a pas d'espérance. Pour ceux qui sont hors de Christ, il n'y a pas de résurrection. À la vie, il y a la résurrection pour la mort et pour la punition, mais pas pour la vie. Alors, notre foi n'est pas en vain. Notre mort ne vient pas avec désespoir. Notre avenir est au ciel. Alors, Paul parle à ceux qui ne croient pas. Il dit non, la révélation est quelque chose. C'est une manière de parler de la religion et des bonnes choses qui arrivent. Et nous avons appris non seulement l'apôtre Paul, mais la théologie de nouvelle orthodoxie qui parle de la résurrection, que nous devons avoir, nous avons l'esprit de la résurrection en nous. Il y a des choses pour lesquelles nous devons nous sentir heureux. Mais l'apôtre Paul nous dit ici que notre avenir est au ciel parce que la résurrection est réelle. Et nos vies et nos vies doivent être là. Et qu'est-ce qu'il dit de ceux qui n'ont pas de l'espérance? Il dit, si nous sommes religieux et Jésus-Christ ne règne pas, n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors nous sommes perdus. Nous pouvons voir quelque chose encore pour nous encourager, pour nous soutenir, pour rendre notre vie facile. Mais s'il n'y a pas de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, ça n'a pas de sens pour être religieux. Ça ne suffit pas de vivre dans la joie et vivre dans la résistance et dire que quand je meurs. Non, c'est pas comme ça. Il nous rappelle que nous devons être attentifs à cette espérance. Nous avons une vie à mener après la mort et notre vie doit être enviée parce que c'est le moyen par lequel Dieu déclare le pouvoir de sa résurrection pour ceux qui sont autour de nous. Alors, la résurrection de Jésus-Christ, un aspect, une partie de l'élévation, de l'exaltation de Christ, nous voyons la puissance, le pouvoir de Dieu qui nous donne de l'espérance dans plusieurs aspects de notre vie, que nous pouvons combattre le péché avec l'espérance parce que Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché. Nous avons l'espérance de l'Église dans le monde déchu. Nous prions et nous demandons, par exemple, nous collectons de l'argent pour la mission, pour les missionnaires dans plusieurs pays, parce que, par exemple, aujourd'hui, nous avons demandé qu'on contribue de l'argent. Il y a des parties où il y a l'Évangile, il y a des gens qui sont hostiles à l'Évangile. Ils disent que je vais te combattre. Ce type d'hostilité est une manière de conquérir l'Église. Si ce n'était pas ainsi, que Christ est mort et qu'il est ressuscité encore, et il a donné le pouvoir pour que l'Église, dans des milieux comme les milieux hostiles, puisse continuer par croître dans, je ne parle pas de la croissance dans la maturité en parlant des choses physiques, mais je parle de la croissance dans notre amour pour Dieu, dans notre amour pour les uns les autres, notre sanctification, notre sainteté, et également en ce que Dieu nous a appelé à faire et à être. Alors Christ, il est ressuscité d'entre les morts, il est assis à la droite du Père, il a conquis la mort et le péché, et il nous donne de l'espérance à cela. Les Écritures ajoutent pour que nous puissions croire. Alors croyons à cette résurrection. Prions. Notre Père Céleste, nous prions que tu nous donnes ta bénédiction après avoir écouté ta parole, après avoir écouté la prédication sur la doctrine de la résurrection du Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui sont parmi nous et qui sont confus et qui luttent par rapport à leur vie. Je prie que tu leur donnes la clarté de compréhension, que tu leur donnes également la foi qui sauve. Et nous qui sommes des croyants, nous prions que tu nous fasses grâce pour que tu nous donnes de l'espérance. La vie est remplie de difficultés, de défis, de maladies, de morts, mais toutes ces choses sont là. Mais nous prions que tu nous fasses miséricorde et que nous puissions trouver la force dans la puissance de résurrection. Ceci nous demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.